France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Des histoires ou des souvenirs? Henri de Monterland s'en expliquait au micro de Pierre de Boisdeffre en 1969 à propos de son roman « Les garçons ». Une histoire d'amitié particulière, selon la terminologie de l'époque, dans un collège catholique, un débat entre l'athéisme et la foi. On reconnaît là le sujet de la ville dont le prince est un enfant, œuvre pour le théâtre en l'occurrence. Le roman peut être plus vivant, plus franc, plus profond que la pièce, selon Henri de Monterland lui-même. L'abbé de Prats, on le sait, dit à Sevrais, dans la pièce, « Vous sourirez de tout cela quand vous aurez 20 ans ». Et Sevrais, Monterland, répond « Non, je n'en sourirai jamais ». Le diplomate et homme de radio, Pierre de Boisdeffre, était l'interlocuteur d'Henri de Monterland dans le dialogue diffusé pour la première fois sur France Culture le 16 mai 1969.
Henri de Monterland, vous avez derrière vous un demi-siècle de vie littéraire et peut-être devrais-je même dire davantage, je crois bien que vous avez commencé à écrire au collège dès l'âge de 8 ans. Mais il n'est pas fréquent qu'un auteur parvenu au sommet de son œuvre, arrivé à l'âge des œuvres complètes, se retourne vers le paysage de sa jeunesse et trouve, dans un sujet qui concerne ses premières années, l'occasion d'écrire ce que vous me permettrez d'appeler un de vos chefs-d'œuvre. Beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, tenaient « La ville dont le prince est un enfant » pour votre plus grande pièce, et il nous arrivait de nous étonner que vous vous refusiez à la mettre sur scène. Heureusement, depuis qu'elle a été représentée, elle a attiré et elle attire un public très nombreux. Elle vient d'atteindre la 500e, ce qui n'est pas fréquent pour une pièce de théâtre. Mais vous vous êtes retourné vers le sujet de la ville et vous nous avez donné, voici quelques semaines, un roman de 373 pages qui est peut-être l'un des plus importants de votre œuvre et dans lequel vous renouez avec des thèmes qui ont été ceux de vos premiers livres, Le songe, La relève du matin. De sorte qu'on peut d'abord se demander pourquoi Henri de Monterland avez-vous tant attendu pour écrire Les garçons alors que vous portiez si manifestement ce sujet en vous depuis tant d'années?
Eh bien, Les garçons ont été conçus comme une œuvre que j'étais vraiment sûr d'écrire. En 1929, je m'y suis mis, j'ai écrit 50 pages, comme je le raconte dans la préface, j'ai écrit 50 pages, qui ont d'ailleurs été éditées à l'époque en tirage de luxe. Et puis j'ai senti que pour écrire ces histoires, je ne dis pas ces souvenirs, car il y a une part de souvenirs, mais il y a une part d'imagination qui est beaucoup plus grande qu'on ne le croit, que pour écrire ces histoires de garçons, il serait peut-être nécessaire que j'eusse un recul et que, surtout pour décrire des personnages tels que les personnages de prêtres, puisqu'il y a deux personnages qui ont un rôle important, qui sont tous les deux des prêtres, vraiment à 30 ans, je ne me sentais pas la maturité suffisante pour les étudier et je bronchais. J'ai donc mis, je ne peux pas dire que je les ai mis au tiroir, mais enfin j'ai tout de même mis au tiroir des notes que je n'ai cessé de prendre entre l'année 1929 et le bon à tirer que j'ai donné en 1969, en janvier, de sorte qu'on peut dire que j'ai porté cette œuvre pendant 40 ans. Je me félicite de l'avoir portée ainsi, car il me semble qu'une des particularités de ce roman, c'est que justement, il débute par des histoires de très jeunes garçons, sinon les plus jeunes ont, je crois, 12 ans, 12 et 17 ans, et qu'il se termine par la mort de gens qui ne sont pas des vieillards, ni l'un ni l'autre, l'un a 60 ans, l'autre en a 40, et que de sorte, on y voit, si vous voulez, une œuvre qui va des commencements de la vie jusqu'à sa fin, et qui, en somme, on peut dire, a été sinon écrite, au moins portée, comme je vous le disais, depuis les commencements d'une vie jusqu'à, disons aussi, sa fin.
Les garçons reprennent le sujet de la ville dont le prince est un enfant, une histoire d'amitié particulière dans un collège catholique, un débat entre l'athéisme et la foi, mais au lieu d'être resserré en trois actes, ce débat s'inscrit dans l'expérience de toute une vie avec de multiples personnages, d'où il me semble une plus grande force encore d'incarnation.
Comme je l'ai dit dans le volume, j'ai eu en 1929 une véritable fringale de faire cette espèce de performance d'écrire à la fois, tout au moins à la suite naturellement, ou j'aurais pu le faire presque à la fois, enfin ça n'a pas eu lieu ainsi, un roman et une pièce sur le même sujet. Depuis que le roman est paru, bien entendu, c'est-à-dire assez amusant pour un créateur, je vois les gens qui me disent que le roman est mieux et d'autres qui me disent que la pièce est mieux. Ceux qui préfèrent le roman me disent que j'ai gâché la pièce en écrivant le roman. Et ceux qui préfèrent la pièce me disent que le roman était inutile. Bon. Pour moi, il me semble que de faire les deux choses à la fois, je suis l'homme du « et » et non l'homme du « ou ». Et il me semble que les deux choses sont toutes les deux bonnes, et que l'existence de ces deux œuvres est une très bonne chose, elles se font valoir l'une et l'autre. Pour défendre le roman, puisque pas mal de gens sont assez intoxiqués par la pièce et ne veulent pas qu'on en change une ligne, alors ils sont désarçonnés par des nouveaux personnages, je dirais que dans ce roman, l'intrigue y gagne grâce à la puissance analytique qu'a en soi le roman. Nous connaissons mieux les personnages et leurs conflits s'éclairent d'une lumière nouvelle. Ce qu'il racontait dans la pièce, nous le vivons dans le roman parce qu'il peut décrire précisément les lieux de l'action, augmenter le nombre des personnages, s'attarder sur des portraits et des expressions, insister sur des détails significatifs. En somme, mettre en scène lui-même, roman, son sujet et en expliciter les aspects les plus profonds. La pièce « La ville dont le prince est un enfant » est une œuvre plus pure, plus dépouillée et peut-être plus émouvante, si j'en crois ce que me disent les gens, surtout grâce à la qualité tout à fait remarquable des acteurs, je suis content de le dire en passant. Mais le roman est peut-être plus vivant, plus franc, et j'ajouterai, en pesant le mot, plus profond.
Il est difficile, peut-être ne serez-vous pas de cet avis, mais il est difficile quand on lit Les Garçons de ne pas trouver en effet dans cette œuvre de forts éléments d'autobiographie. Car ce jeune homme, Alban de Bricoul, vous ressemble comme un frère. Il a l'âge que vous aviez lorsque vous étiez élève à l'école Sainte-Croix de Neuilly. Je crois même d'ailleurs que vous aviez dû quitter le collège et Alban de Bricoul le quitte aussi. Il a eu des professeurs donc, que vous nous faites vivre avec une telle intensité que nous imaginons mal que vous n'ayez pu les connaître. Bref, nous avons souvent l'impression qu'Alban de Bricoul, c'est vous, c'est ce petit dont Barrès disait « il a du jus », que l'abbé de Pratt a été un de vos professeurs. Est-ce entièrement exact?
Je vais vous faire une réponse que font tous les auteurs du passé, du 19e siècle en tout cas, et les contemporains à qui on a posé une pareille question, les réponses dans des termes différents sont toujours les mêmes. On prend un modèle, d'ailleurs je vais vous le dire dans une phrase « ami de la mémoire », que je vais vous appeler ça si vous voulez, l'abeille et le rhinocéros, n'est-ce pas? C'est un apologue. L'écrivain prend un modèle, il se dit je vais peindre une abeille. Il commence à peindre une abeille, et quand il a fini et qu'il voit sa page, il s'aperçoit qu'il a dessiné un rhinocéros. Eh bien, la création des personnages, tous les écrivains, ils n'ont pas parlé tous de l'abeille et du rhinocéros, c'est moi qui ai l'honneur d'avoir inventé cette formule, mais ils ont tous dit la même chose, c'est qu'ils partent d'un donné exact, un donné concret, et qu'ensuite ce qu'ils retrouvent est une chose qui n'a très peu de rapport avec ce donné. J'ai fait là-dessus autrefois une autre image qui est également bonne, qui est peut-être même plus juste que celle du rhinocéros, plus précise. J'ai comparé la création d'un personnage littéraire chez un auteur de fiction à un visage que quelqu'un retrouve dans une bassine d'eau, je crois de l'étain, enfin qui fait un fond très noir dans lequel on se regarde comme dans un miroir, et le créateur, le monsieur qui se regarde dans le miroir, se voit vraiment pareil à ce qu'il est lui-même, sauf en plus flou, mais il fait simplement ceci avec son doigt, et c'est tout à fait brouillé, c'est quelque chose qui vraiment n'est pas lui, mais dans lequel il y a un petit fond qui est lui. Je crois que cette image est très précise pour indiquer le processus de toute création d'un personnage de fiction. Elle est en tout cas celle dont je me suis servi. Il est évident que je suis parti d'un personnage réel pour peindre mes prêtres, pour peindre Madame de Bricoul, pour peindre les autres garçons. Je suis parti d'un personnage réel et je l'ai ensuite complètement déformé, et je proteste, et tous mes confrères, vivants ou morts, protestent également lorsqu'on leur dit quel a été votre modèle, sinon avec le sens restrictif que je viens de vous décrire.
Donc, au sens propre du terme, l'abbé de Pradt n'a pas eu de modèle.
Sûrement pas.
Et pourtant, il y a une personne qui ressemble de très près à celle que nous imaginons avoir été madame votre mère, c'est la comtesse de Bricoules. Portrait admirable, presque déchirant, de cette femme encore jeune, veuve, seule, malade, délaissée, à la fois frivole et grave, et que vous aviez déjà, me semble-t-il, évoquée dans le songe et dans la relève. Est-ce qu'il n'y a pas dans toute votre œuvre sous-jacente une révolte contre la femme, et je dirais même une sorte de révolte contre la mère que nous retrouvons ici?
Dans ce que vous venez de me dire, M. de Boisdeffre, il y a deux choses distinctes. La première, qui est le caractère de modèle qu'aurait eu ma mère. Il m'est difficile de le nier, puisque j'ai pris purement et simplement dans mon roman deux pages qui ont paru il y a une quinzaine d'années dans le petit et excellent volume que m'a consacré Pierre Cipriot aux éditions du Seuil. Donc je ne peux pas dire, si je le voulais, je ne pourrais pas nier que le départ de ce personnage est ma mère, mais alors vraiment, c'est l'histoire de l'abeille et du rhinocéros, car ça arrive à faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec ma mère. Ça, c'est une première question qui est réglée, si vous voulez. J'aimais beaucoup ma mère, j'ai eu avec elle des difficultés qui étaient analogues dans mon esprit à celles de la chatte et de son chaton, qui sont dans les bras l'un de l'autre, en train de se lécher, de se caresser sur un fauteuil, et brusquement, on entend un cri épouvantable, c'est soit la mère, soit le fils, qui s'en va avec la queue dressée comme un cierge, qui galope dans tout le salon, parce que son partenaire, masculin ou féminin, l'a mordu. Ensuite, ils reviennent, ils s'entrelèchent de nouveau, ils se caressent, ils se bécotent, etc. Les relations que j'ai voulu faire de mon héros sont celles-là. C'est atroce, si vous voulez, mais enfin, c'est la règle de la jungle, qui d'ailleurs gouverne un peu tout ce livre, où les prêtres, c'est un peu la jungle avec les élèves, et les élèves, c'est un peu la jungle avec la mère. Quant à la seconde question que vous m'avez parlé, je crois, d'une révolte contre la mère, je ne vois vraiment pas une révolte sérieuse contre la mère dans mon héros, qui aime beaucoup sa mère, qui est en sanglots et désespéré quand elle meurt, qui la picote, ils se font des petites atrocités mutuelles, comme je vous l'ai dit, mais il n'y a aucune révolte contre la mère en lui donnant tous les sens et arrière-sens psychanalytiques que je crois, car la psychanalyse et moi nous entendons pas beaucoup, encore que, seconde parenthèse, la psychanalyse aurait sûrement beaucoup à dire dans son registre sur mon roman, mais enfin, je crois que cette révolte contre la mère, qui doit être, je crois, une expression tout à fait classique, vraiment, je ne peux franchement pas la trouver dans Les Garçons.
Vous avez le droit de le penser, mais un auteur n'est pas entièrement le maître du sens qu'il a mis dans ses livres. Et vous êtes frappé par le caractère, j'allais dire superficiel, aimable des rapports entre la mère et le fils, et moi je suis frappé par leur caractère tragique, car Madame de Bricoules meurt désespérée, meurt persuadée que son fils ne l'aime pas.
Oui, mais alors là, je me permets d'ajouter que si Madame de Bricoules avait trouvé un médicament, si on lui avait donné un médicament qui l'avait ressuscité, qui l'avait en somme guéri, elle se serait remise très bien avec son fils. J'imagine qu'elle a été là dans une phase que je crois qui est fréquente dans la nature, qui est cette phase dans laquelle soit les malades, soit à plus juste titre, les agonisants, sont possédés d'un égoïsme infernal. Moi, j'ai vu ça sur moi quand je suis malade. Je l'ai vu aussi sur d'autres gens qui sont extrêmement gentils, mais qui, du jour où ils se croient touchés par la maladie, deviennent vraiment atroces d'égoïsme. Et lorsque j'ai voulu créer, n'est-ce pas, cet épisode dans lequel ce fils bien-aimé de Madame de Bricoules, à la fin, n'est plus considéré comme un domestique, comme un type qui doit être toujours de service, qui doit être là, qui doit aller faire des courses, etc., qu'elle est prête à ne plus considérer comme quelqu'un qu'on sonne comme un domestique, eh bien, je crois que c'est une chose que moi j'ai vu souvent dans la réalité, je ne crois pas qu'elle est tout souvent exploitée par un romancier. Je veux dire, si Madame de Bricoules, au lieu de mourir, s'était guérie, si elle n'avait pas été, si j'ose dire, accrochée à ses médicaments et accrochée à ses médecins pour vivre, elle aurait repris son fol amour pour son enfant.
Autre exemple des malentendus qui peuvent séparer les auteurs et les critiques, vous annonciez donc en 1937, dans la préface du Démon du Bien, Les Garçons comme un livre religieux. C'est en effet un livre pénétré de sentiments religieux, mais nous, ce qui nous frappe dans ce livre, je dirais, c'est l'espèce d'athéisme profond du héros, et c'est le sujet le sujet peut être annexe, mais quand même central, du prêtre athée que vous avez choisi de peindre avec l'abbé de Pratte. Et il y a une question qu'on ne peut pas ne pas se poser à votre sujet. Avez-vous toujours été cet athée, je dirais cet athée calme, réfléchi et sans problème que vous affirmez être dans toute votre œuvre? Et comment se fait-il qu'étant cet athée-là, vous parliez des problèmes de la foi de l'intérieur, que vos héros les vivent de l'intérieur, et d'une manière telle que l'éducation catholique n'y suffit pas, il faut autre chose, il faut la foi?
J'ai eu une instruction religieuse tout à fait rudimentaire. Ma famille, une partie de ma famille était très croyante, l'autre de croyante superficiellement. J'ai été 6 ans dans des boîtes, dans des collèges laïques, 3 ans au lycée, 3 ans dans une petite boîte. J'ai donc été 1 an externe libre, c'est-à-dire ce qu'on peut imaginer de moins astreignant dans un collège religieux. Encore dans ce collège religieux, étais-je dispensé de l'instruction religieuse. Et Dieu jouait un rôle secondaire dans le collège où j'étais, n'est-ce pas ? Le collège où j'étais mettait l'accent sur la conduite des âmes, sur la prise de possession des âmes, sur le gouvernement des âmes et sur le perfectionnement qu'on voulait leur imposer. Mais l'incidence chrétienne était peu marquée. Alors, avec tout ça, je suis arrivé à 16 ans ayant une foi, j'ose dire, vraiment dérisoire, qui étaient des superstitions, des neuvaines à Saint-Joseph de Cupertino pour passer mon bachot. Ça n'a jamais dépassé ça. Je n'ai jamais su le sens de la messe, je n'ai jamais su le sens d'un sacrement, je n'ai jamais même su mon catéchisme, et j'ai eu ce fameux 0 d'instruction religieuse dont j'ai honoré mon héros dans mon roman. Alors, à 16 ans, je me suis ainsi décroché tout naturellement de la foi. J'ai eu un commencement de raison, et cette raison a eu des raisons bonnes ou mauvaises, selon la façon dont on les jugera, pour ne pas croire en Dieu, tout en gardant pendant un certain temps, surtout à cause des histoires de taureaux, de tauromachie, des côtés superstitieux, j'ai eu pendant très longues années. Mais enfin, je n'avais plus la foi, je veux dire qu'à 16 ou 17 ans, en dehors des moments où je risquais un petit peu ma vie, je n'avais absolument aucune foi. Je suis resté toujours ainsi.
L'abbé de Pratte, dans Les Garçons, dit de ses élèves, « Ils se souviendront toujours de leur passion et la religion restera avec elles. » Chez vous, la religion n'est pas restée, sinon comme un motif assez extérieur. Et cependant, tout ce qui vous a touché au collège, ce collège que vous appelez le paradis des enfants, reste présent dans votre livre et peut-être aussi dans vos souvenirs. Et notamment ces amitiés particulières qui, dans le climat où elles sont vécues, nous paraissent très, très étranges, appartiennent au climat d'une autre époque. Est-ce que les amitiés particulières, cela correspond pour vous à une simple curiosité ou à un problème de fond ?
Le collège où j'étais était fort infesté ou fort honoré, je ne sais comment dire, d'un grand nombre d'amitiés particulières. J'en ai une moi-même, je ne mets pas au entre guillemets, parce que c'est un mot qui se trouve au début du XVIIe siècle, j'ai vu dans des livres de tout à fait le début du jansénisme, où il était déjà employé comme expression courante, et exactement dans le même sens qu'aujourd'hui. J'ai donc eu à ce moment-là, comme la plus, vraiment, je veux dire la totalité de mes camarades, ce qu'on appelle une amitié particulière. Elle a été, comme on peut le voir par les ouvrages, les deux ouvrages qui traitent de ce sujet, qui sont « La ville dont le prince est un enfant et le garçon », elle a été une chose fort importante, fort noble, en définitive. Et elle m'a donc, comme toutes les choses de cet âge qui s'impriment fort en vous, elle m'a fortement impressionné. Et dès le moment où je l'ai vécu, sachant très bien que j'écrivais, j'ai pris des notes sur elle. Et je ne peux pas dire que ces notes ont été absentes de la composition de mes deux ouvrages. Je pense que ça doit se sentir assez bien qu'il y a des choses qui sont tirées directement et tout accrues de la réalité. C'est donc une chose que j'ai portée en moi de façon fervente et importante, comme beaucoup d'hommes. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais enfin, qui à ce moment-là était une chose importante, et ça a été pour moi un thème, en effet, important dans mon œuvre, puisque j'en ai tiré deux œuvres, que je ne sais pas quelles sont les meilleures, je ne le crois pas d'ailleurs. Mais enfin, ce ne sont même pas celles de mes œuvres que je préfère, mais enfin, qui, je crois, sont réussies et font honneur à ce thème.
Il est probable que chez tout créateur, j'allais dire, la part féminine est aussi importante que la part masculine. Quelquefois, elle l'est davantage. une sorte de sensibilité particulière du créateur l'ouvre certainement sur toutes les faces de la création. Vous avez fait d'ailleurs de l'alternance une règle non seulement de votre œuvre mais de votre vie. Est-ce que vous allez jusqu'à penser avec Léonard de Vinci que le génie, lorsqu'il s'exprime, est nécessairement androgyne?
J'ai écrit là-dessus une phrase que je n'ai évidemment pas exactement dans la mémoire, dans mes carnets qui vont, je crois, de l'année 1934 à l'année 44, enfin dans le premier volume de mes carnets, où je dis qu'il me paraît absolument indispensable pour un écrivain d'avoir une part féminine de la sensibilité dans sa complexion qui lui permet de toucher ce vaste monde féminin de la sensibilité. Si je me souviens bien, je dis que des auteurs comme Corneille, comme Hugo, comme Chateaubriand sont pour moi des auteurs trop uniquement virils et que des auteurs tels que Racine, tels que Lamartine, tels que Musset sont des auteurs qui ont une prise plus grande, qui ont un éventail plus grand parce qu'ils ont une sensibilité féminine. Je crois qu'il est absolument nécessaire, en tout cas moi je me félicite d'avoir une sensibilité, qu'elle soit féminine ou qu'elle ne soit pas féminine, peu importe l'épithète qu'on lui met, mais je crois avoir une grande sensibilité. Je crois que les gens le savent et c'est pour cela qu'ils achètent mes livres, qu'ils viennent voir mes pièces, que mes confrères sont peut-être moins aperçus car ils ne le disent jamais, mais je crois que dans les auteurs vivants français contemporains, je suis celui qui a mis le plus sensibilité dans ses ouvrages.
Je le crois aussi, et c'est d'autant plus frappant que l'on vous rattache souvent, au contraire, à l'ordre viril, sur certains de vos essais, Service inutile.
Mais oui.
Les deux des très grands moments du livre se situent à la fin. C'est la mort de l'abbé de Pratt, cette mort apaisée, cette mort chrétienne de l'agnostique. Et c'est également, j'allais dire, la dernière page qui est le sommet du livre, enfin comme le contrepoint musical. Cette évocation du parc rasé pour faire place à un garage monstre, Ubi Troia fuite. On vous imagine presque revenant derrière les murs du collège Sainte-Croix de Neuilly et regardant ce qui est, comme tout, promis à la mort. Et ce sentiment que la pièce est hors du temps aurait pu vous enlever des lecteurs, je crois qu'il n'en est rien et que beaucoup de vos lecteurs, et notamment de vos jeunes lecteurs, garçons ou filles, sont à la fois frappés par le fait que votre pièce est effectivement hors du temps, mais qu'elle a une résonance humaine, une intensité qui les touche directement.
Il y a certainement une façon de montrer une part de choses quand on est écrivain de fiction, une part de choses qui disparaissent complètement, une part de choses qui restent et qui peuvent être comprises même par des générations différentes. Ce que vous me dites me fait songer à une lettre, je ne sais pas si je vais la retrouver parce que j'ai pas mal de papiers, enfin une lettre que m'a écrite un jeune homme qui a 18 ans, qui est en hippocagne, je pense que vous savez ce que c'est. Moi je ne le sais pas, mais enfin peu importe. Et qui a 18 ans, qui se destine à être professeur de grec, ce qui demande beaucoup de courage, et qui m'écrit justement cette phrase qui répond, que je vais me permettre de vous lire, la ceiling, et qui répond tout à fait à la phrase que vous venez de me dire. Il écrit: « Si cette œuvre paraît hors du temps et singulièrement hors d'une autre, ce n'est pas parce qu'elle se situe dans la société parisienne d'avant 1914 qui nous paraît aussi lointaine que l'époque des pharaons. Si elle détonne aujourd'hui, c'est plutôt parce qu'on y voit des êtres animés, révélés et guidés par des passions d'une intensité inimaginable dans le monde fade et cérébral des années 70, où la jeunesse, entre autres, est si dépourvue d'âme et de feu. » Je vous rappelle qu'il a 18 ans. « Tous les personnages de ce roman atteignent une hauteur d'âme et une générosité qui nous ahurissent un peu. On y rencontre des collégiens capables d'amour et capables de se sacrifier par amour, et des éducateurs qui ne se soucient que de grandir les âmes qu'on leur a confiées. Imaginez notre stupéfaction. »
Évidemment, nous ne sommes pas sûrs que dans les lycées et les facultés rénovées, on trouve des professeurs qui se placent au même niveau, où se place un Prado de la Halle ou un abbé de Pratt, qui leur parle avec ce hauteur et avec ce respect. Il y a tout de même une chose qui me frappe dans ce livre, comme dans toute votre œuvre et probablement dans votre vie, c'est évidemment ce dédain fondamental de l'actualité. Et cela me frappe par opposition à notre génération. Vous appartenez encore d'abord au monde de l'écriture, et dans ce monde de l'écriture, vous êtes de ces gens qui ne croient qu'à ce que l'actualité ne touche pas, alors que nos contemporains ne croient qu'à l'actualité. Mais ce dédain que vous nourrissez pour votre siècle, que toute votre vie, toute votre œuvre manifeste, est-ce qu'il suppose que vous auriez eu, vous connaîtriez une époque privilégiée où vous auriez aimé vivre? Est-ce que vous auriez été plus chez vous, dans l'Athènes du IVe siècle, dans la Rome du IIe siècle, ou dans l'Italie de la Renaissance?
Alors, je crois, ou plutôt je suis sûr, sans pouvoir vous citer des noms, il me faudrait, enfin je pourrais le faire à tête reposée, je ne peux pas le faire comme ça, je pourrais vous en citer deux ou trois, que tous les écrivains, à toutes les époques, ont vitupéré leur époque, surtout quand ils arrivent à la fin de leur vie, mais même aussi d'autres quand ils étaient adultes. Et je suis persuadé que chacun d'eux, si on lui avait posé la question que vous me posez, aurait dit que son époque était épouvantable, mais que si on lui avait également posé la question tout entière, peut-être que vous la posez, à quelle époque auriez-vous voulu vivre? Et s'il avait réfléchi, il aurait répondu ce que je vais vous répondre, c'est qu'à quelque époque que j'eusse vécu, j'aurais sûrement eu la même réaction, c'est-à-dire, en un mot, celle de trouver que tout est mal et de crier sur tout. Je suis souvent amusé à m'imaginer dans la société de la République romaine, ou enfin de César, de tous ces messieurs, Sylla et autres, qui m'excitent beaucoup l'imagination, et je suis persuadé que j'aurais trouvé cette société extrêmement petite, extrêmement vile, que j'aurais fait ce que faisaient d'ailleurs tous les Romains bien, c'était de penser à l'âge d'or.
Lorsque nous considérons l'ensemble de votre œuvre et de votre vie, nous y voyons, ou j'y vois, deux périodes. L'une où vous avez été profondément ancré dans le réel, et dans votre enfance, dans votre adolescence, vous étiez pleinement dans la vie. C'est le moment peut-être où vous avez vécu avec le plus d'intensité. Il y a eu un autre moment où vous avez vécu avec la même intensité, je dirais même le même lyrisme, c'est la guerre. Toute cette première période, toute cette première partie de votre vie, l'enfance, le sport, la guerre, la tauromachie, vous êtes dans le réel. Et puis à une certaine période, c'est ainsi que je le vois, est-ce la guerre, est-ce le fait que vous avez cessé de croire en la France, en notre civilisation, vous êtes détaché et vous considérez le monde et les hommes d'un regard beaucoup plus froid. Et je vous dirai que c'est la première partie de votre œuvre qui me touche, ou plutôt qui me touchait, car elle était dans la vie. Et puis, brusquement, aujourd'hui, vous revenez sur le moment le plus haut de votre existence, sur l'enfance, sur l'adolescence. Et alors, brusquement, nous avons le sentiment que la vie entre de nouveau, que la vie débouche dans cette œuvre qui était non pas certes figée, mais qui était une œuvre plus froide, plus distante.
Écoutez, je ne peux vraiment pas penser que la période, les 4 années où j'ai écrit 4 volumes qui s'appelaient Les Jeunes Filles, soit une période où je n'étais pas dans le réel, où je n'étais pas dans la vie. Ces 4 livres ont résumé une longue période dans laquelle les sujets de ce livre, qui sont indiqués suffisamment par leur titre, m'ont beaucoup occupé. Et mon foi, j'en ai fait 4 livres, j'aurais pu en faire une douzaine si j'avais voulu.
C'était avant 1940.
Oui, c'était avant 1940. Oui. Vous voyez vous-même, vous me révélez, je dirais presque, une sorte de coupure qui aurait eu lieu en 1940. Il est certain que depuis ce moment-là, il est certain que j'ai plus travaillé. J'ai été plus fixé, mais j'ai plus travaillé parce que j'étais plus fixé, et plus fixé, vous comprenez. À la vérité, je ne sais pas, je reconnais moi-même que depuis cette année 1939 ou 40 ou 41 ou 42, j'ai travaillé davantage, j'ai été plus sédentaire, je n'ai plus voyagé, j'étais sursaturé du voyage, j'en étais sursaturé beaucoup plus tôt, puisque la période que j'ai appelée dite des voyageurs traqués, qui est une des périodes de ma vie où je n'ai pas été heureux, c'est situé entre 25 et 30, c'est situé au moment où je parcourait l'Afrique, l'Espagne, l'Italie comme un rat dans une, comme un écureuil dans une cage. Et j'ai recommencé à être heureux quand j'ai retrouvé mon équilibre avec la création de La Rose de Sable, qui m'a pris 2 ans de stabilité, et de tranquillité et de bonheur. Donc cette période, si vous voulez, de gros travail, moi je la vois plutôt, je vois plutôt la cassure vers l'année 30. Si vous me disiez quelles sont les cassures de votre vie, je vous dirais qu'en 30 j'ai retrouvé la stabilité que j'avais perdue depuis l'année 24. L'année 24 a été une année anéantie où j'ai travaillé, où j'ai publié 3 livres. L'année 30 j'ai travaillé beaucoup à La Rose de Sable. Entre les deux, c'était une période de vagabondage et de peu de bonheur. Mais c'est là que je mettrai la cassure, beaucoup plus que dans une année 39 ou 40 où je ne vois pas bien ce qui aurait pu la motiver.
Vous êtes naturellement le meilleur juge, mais j'avais le sentiment que depuis 1940, et c'est un sentiment que je retrouve dans un certain nombre d'œuvres, vous avez pris de la distance vis-à-vis de votre siècle. Et cela n'a rien d'étonnant. Les années 40-44 sont une cassure effroyable dans notre plus récente histoire. Roger Vaillant dirait que vous vous êtes désintéressé.
Vous voyez cette cassure, moi je la vois en un autre endroit, je ne peux vraiment pas vous en dire plus. Il est peut-être possible qu'à partir d'un certain âge, j'ai considéré que j'avais trop donné, si vous voulez, à la vie, puisque vous tenez à, vous semblez tenir à faire une sorte de discrimination entre la vie et l'œuvre, et que j'ai commencé de me sentir pressé par le temps, et que tout bien fait, j'ai considéré qu'il fallait travailler davantage que je ne l'ai fait. Je remarque, c'est un petit peu plus loin de ce que vous dites, mais je remarque les années 25 et 26 et 27 où j'étais malheureux sont les années où je ne travaillais pas. Je me demande s'il n'y avait pas un pouvoir de fixation du travail que j'ai retrouvé avec La Rose de Sable et que j'ai retrouvé ensuite depuis dans une vie très équilibrée et très heureuse que j'ai depuis ce retour à un travail plus assidu que celui que j'avais dans ma période dite des voyageurs traqués.
De sorte que le plaisir et l'œuvre ont été les deux moments pendant lesquels vous vous sentez sauvé.
Ah ben ça, je l'ai assez écrit, je l'ai assez répété, à rabâcher. Sûrement, quand j'étais plus jeune, il n'y avait guère que ça dans ma vie. J'avais une vie en deux parties, c'était ce que vous venez de dire.
Vous avez écrit jadis, dans un très beau mouvement oratoire, « J'aime finir, j'aime ce bruit de conquête perdue que fait l'océan en se retirant sur la plage, et il vous arrive de moquer les auteurs condamnés aux travaux forcés de la célébrité. » Vous avez annoncé au lendemain de Port-Royal, si je ne m'abuse, que vous quittiez le théâtre, et heureusement, vous n'en êtes pas resté à Port-Royal. Et maintenant, vous venez de nous donner un grand roman avec les garçons. Quel va être votre prochain, votre dernier grand roman ?
J'avais profité des intumescences, comme dirait Chateaubriand, du printemps 1968 et de la paix qu'il me laissait pour commencer un roman qui s'appelait « L'insomnieuse ». C'est un roman qui se passait sous l'occupation, ça n'avait d'ailleurs aucune importance que fut l'occupation, c'était un roman d'hommes et de femmes. Bon. Et puis, à la suite d'un petit incident que je raconterai, qui formera la préface du livre que je vais vous dire, ce petit incident, c'est-à-dire qu'en gros, enfin les choses contre le latin, contre l'antiquité, contre les études classiques, je me suis senti une sorte de devoir absurde de revenir à ce fameux, je dis fameux pour moi, parce que Dieu sait que si j'en ai assez parlé, ce fameux livre sur les Romains, sur les personnages de la République romaine, cette lecture de Tacite, lecture de Sénèque, traduction
Pindus.
De Cicéron, comment ?
Le préface Pindus.
Ah non, pas du tout. Pindus. Là, vous, le préface Pindus est un roman, alors, un véritable roman qui a été entièrement écrit et terminé, composé et terminé en 55-57. Ça, c'est un roman que j'ai commencé en 55. C'est un livre d'essais que j'ai commencé en 55, que j'ai écrit jusqu'à 57 et que j'ai abandonné parce qu'il m'ennuyait un peu. Et que j'ai repris maintenant, ce sont des essais sur des personnages politiques romains et des écrivains du temps de la République romaine. Ça s'appelle « Le 13e César » et le sous-titre est « Pour les temps infâmes ». Ces temps infâmes sont les temps romains et naturellement ce ne sont pas les nôtres. Voilà à peu près ce que j'ai comme projet immédiat. Et alors ensuite, je pense que si je suis encore en vie, je me remettrai à l'insomnieuse. Et ensuite, j'ai beaucoup de projets, mais enfin, ça se perd dans une nuit qui, je crois, sera la nuit définitive.
Voilà une phrase bien inquiétante. Vous avez publié, naguère, une page admirable sur le suicide, et notamment sur le suicide chez les Romains.
Vous allez me demander si j'ai suicidé. Il y a déjà les gens qui me demandent si je convertirai l'heure dernière. Si vous voulez que je réponde ça, nous allons rigoler, nous allons finir sur un gag. Vous me posez une question qui me rappelle un petit peu les gens qui arrivent chez moi, qui se carrent dans le fauteuil, et puis qui me disent, je parle surtout d'un père religieux, qui a fait cela il y a quelques années. Il est entré, il s'est assis sur le fauteuil, et il m'a dit, monsieur, est-ce que vous croyez que vous vous convertirez à l'heure de la mort? Alors, votre question me fait un petit peu penser à celle-là. J'ai répondu au bon père, mon père, écoutez, d'abord je n'en sais rien, et ensuite c'est une chose qui me regarde, et vous me permettrez de vous répondre amicalement la même réponse.
C'était Dialogue avec Henri de Monterlan par Pierre de Boisdeffre. Émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 mai 1969.